Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Notre existence doit être cohérente avec l'évangile que nous annonçons. Le pape l'a rappelé ce lundi en recevant les évêques guinéens, des évêques qu'il a encouragés dans leur mission d'évangélisation. Nous y revenons dès le début de ce magazine. La nuit des témoins a débuté ce lundi pendant 5 jours et dans 4 grandes villes françaises. AED donne la parole à de grands témoins, éclairage dans quelques instants. Et puis à la fin de cette édition, vous entendrez le père Rouget, professeur au Collège des Bernardin, qui propose une réflexion sur l'avenir du catholicisme en France. Bienvenue dans ce magazine. Le pape François s'est adressé ce lundi matin aux 3 évêques de Guinée-Conakry en visite ad limina au Vatican. Le Saint-Père, dans un discours en français qui leur a été remis, les encourage dans leur œuvre d'évangélisation. Attentif aux problématiques du continent africain, le pape rappelle également l'importance pour l'Église d'offrir un exemple moral solide. Il invite ainsi les évêques à soutenir les familles dont le modèle chrétien doit être proposé et vécu sans ambiguïté. Cyprien Vier.
Le pape dit sa joie et sa reconnaissance pour le beau travail d'évangélisation qui s'accomplit en Guinée. Il se réjouit d'une présence chrétienne minoritaire mais assumée. Les disciples du Christ y forment un corps bien vivant qui manifeste la joie de l'évangile par l'enthousiasme de leur foi. Le pape appelle l'ensemble des chrétiens à collaborer avec les acteurs de la vie sociale et à être toujours et partout des artisans de paix et de réconciliation pour lutter contre l'extrême pauvreté à laquelle la Guinée se trouve confrontée. Les catholiques sont aussi invités à approfondir les relations avec leurs compatriotes musulmans qui représentent 85% de la population. Il salue aussi le rôle des catéchistes laïcs en insistant sur le soutien au modèle chrétien de la famille dans un contexte social qui admet la polygamie. François évoque aussi la générosité des religieux guinéens qui rendent un témoignage authentique de la tendresse de Dieu. Avec plus de gravité, François salue l'ouverture récente du grand séminaire Benoît XVI, mais il s'inquiète du trop faible nombre de prêtres. Il insiste sur le respect du célibat, le refus de la mondanité et du carriérisme. Le sacerdoce n'est pas un moyen d'ascension sociale, rappelle fermement le pape, qui appelle les évêques de Guinée à soutenir leurs prêtres comme des pères et des amis, avec cœur et esprit fraternel.
Cyprien Viette. Le pape François s'est également adressé ce lundi aux participants à la session plénière du Conseil pontifical pour la pastorale de la santé. Le Saint-Père a rappelé que la véritable beauté de la vie humaine englobait aussi sa fragilité. Lorsque nous gardons et protégeons la vie, quel que soit le stade et les conditions de celle-ci, nous pouvons reconnaître la dignité et la valeur de tout être humain, de sa conception jusqu'à sa mort. Dans la souffrance, a insisté le pape, personne n'est jamais seul, parce que Dieu, dans son amour miséricordieux pour l'homme et pour le monde, embrasse aussi les situations les plus inhumaines. Que les habitants de Casamance, si éprouvés par la violence et la division, puissent vivre dans la concorde et la fraternité, c'est le souhait exprimé par le pape François dans un message signé par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin à l'occasion du 26e pèlerinage interdiocésain de Temento. Le Saint-Père encourage les fidèles à chercher un véritable renouveau évangélique et à persévérer dans la prière sans se décourager, demandant à Dieu de faire de tous des artisans de paix et de réconciliation. Ce message a été lu ce dimanche par le nonce apostolique au Sénégal, Monseigneur Mariano Montemayor, qui lui aussi, durant une messe solennelle, a encouragé les populations de Casamance à la pacification de la région. De chrétiens ne peuvent vivre leur foi librement. L'année dernière, 22 missionnaires ont été tués à travers le monde, soit près du double par rapport à 2012. Pour rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie par fidélité au Christ, Aide à l'Église en détresse organise comme chaque année la Nuit des témoins, des veillées de prière et des témoignages. Cette 6e édition se tient du 24 au 28 mars dans 4 grandes villes de France, Strasbourg, Bordeaux, Marseille et enfin Paris. Cette année encore, de grands témoins vont partager ce que vivent les chrétiens dans leur pays. De grands témoins que présente Marc Fromager, directeur de l'aide à l'Église en détresse.
Cette année, nous avons le patriarche copte catholique, le chef des catholiques d'Égypte. Ça sera assez intéressant parce que l'Égypte aujourd'hui, on le sait, vit un moment un petit peu historique, un changement de régime. Donc c'est intéressant d'avoir un témoignage de l'intérieur sur l'évolution de ce pays et l'espérance. En tout cas, j'ai rencontré moi-même en Égypte la semaine dernière, où je me suis rendu, l'espérance non seulement des chrétiens, mais également d'une grande partie de la population égyptienne face à ce nouvel environnement qui s'ouvre à eux. Nous aurons également l'évêque de Mossoul en Irak. Alors Mossoul, c'est juste un des endroits peut-être les pires pour être évêque aujourd'hui dans le monde. Et il nous partagera, Monseigneur Nona, ce qu'il vit là-bas, sa profonde détresse, la détresse de l'Église, des chrétiens dans ce pays, et en particulier dans cette ville, mais également, si possible, les quelques raisons qu'il a tout de même d'espérer. Nous aurons également une religieuse syrienne qui viendra nous donner son témoignage sur la Syrie, sur ce que vivent les chrétiens là-bas, sur ce que vit toute la population syrienne d'ailleurs. Et enfin, donc pour sortir un petit peu du Moyen-Orient, nous aurons l'archevêque de Bangui en Centrafrique qui viendra nous parler de la situation dans son pays et des efforts qu'il fait, que l'Église accomplit aujourd'hui pour ramener la paix dans ce pays.
Et donc, quel est un peu l'état des lieux donc, concernant la situation donc, des chrétiens dans le monde ?
Globalement, il est difficile de voir d'une année à l'autre des grands bouleversements. On a toujours de grosses difficultés au Moyen-Orient et dans la plupart des pays à majorité musulmane. On a également des soucis, une tension croissante dans certaines régions de l'Inde avec des fondamentalistes hindous. On a des problèmes toujours dans des régimes totalitaires, en général donc des dictatures souvent communistes comme la Chine, bonne partie de la péninsule indochinoise avec le Vietnam, le Laos, sans évoquer la Corée du Nord, et avec des résurgences en Amérique latine et centrale comme à Cuba par exemple. Et donc cette situation, elle est assez stable. Nous, on évalue à peu près à 200 millions le nombre de chrétiens dans le monde qui ne sont pas entièrement libres de vivre leur foi, ou en tout cas 200 millions de chrétiens pour lesquels le simple fait d'être chrétien peut, à un moment donné, leur compliquer la vie. C'est-à-dire que c'est 10% des chrétiens, hein, puisqu'on est 2 milliards, ça veut dire un chrétien sur 10 dans le monde qui, à un moment donné, doit être prêt à payer le simple fait d'appartenir au Christ. Et c'est aussi pour eux que cette nuit des témoins, cette vieille prière est destinée.
Des propos recueillis par Audrey Radondi. En cette 22e journée de prière et de jeûne pour les missionnaires martyrs, célébrée tous les ans le 24 mars depuis 1993, des milliers de Salvadoriens commémoraient ce lundi le 34e anniversaire de l'assassinat de l'archevêque de San Salvador, Monseigneur Romero. Il avait été assassiné en pleine messe le 24 mars 1980. Samedi déjà, des messes ont été célébrées dans tout le pays. Un pèlerinage a également été organisé. Plus de 3000 personnes y ont participé. Monseigneur Romero est connu pour avoir dénoncé les injustices commises durant le conflit armé au Salvador, qui dura 12 ans de 1980 à 1992, faisant plus de 75 000 morts. Un séminaire d'études sur le thème Jean-Paul II, le pape de la famille, a réuni la semaine dernière à Rome professeurs et étudiants des sciences du mariage et de la famille, ainsi qu'un certain nombre d'évêques venant du monde entier pour une réflexion sur l'héritage de Jean-Paul II. Cette rencontre, organisée par l'Institut pontifical Jean-Paul II d'études sur le mariage et la famille, a reçu le parrainage du Conseil des conférences épiscopales d'Europe qui vient de publier un communiqué final. Olivier Bonnel.
Un constat a été posé. Il y a une grande ignorance à l'égard de la doctrine de l'Église sur la famille, souvent perçue comme un ensemble de normes. Mais la mission de l'Église est avant tout d'annoncer Jésus-Christ qui va à la rencontre de tous et frappe à la porte de tous les foyers pour offrir la plénitude de la vie. C'est Jésus qui sauve les familles par le biais de l'Église. Les participants et les rapporteurs ont souligné le défi pastoral qui consiste à faire émerger la beauté de l'Évangile de la famille sans vouloir en dissimuler les exigences de vérité. Le cardinal Lorenzo Baldisseri, secrétaire général du synode des évêques, a invité les participants à faire en sorte que cette période de préparation au prochain synode soit une occasion pour parler de la famille et pour montrer la beauté de l'enseignement de l'Église. Cette rencontre a permis de mettre en évidence l'importance du magistère de Jean-Paul II, qui montre clairement que la famille est, même à notre époque, une véritable bonne nouvelle. L'enseignement du futur saint, ont souligné les participants, est une invitation à ne jamais cesser d'annoncer l'amour familial, même quand cette annonce doit aller à contre-courant, il s'agit là d'une responsabilité de l'Église. L'Église, qui est invitée à promouvoir une pastorale de la famille adéquate, en mesure d'accompagner les personnes et les familles, et qui sache leur offrir la vérité et l'amour de Jésus-Christ.
Parmi les participants à ce séminaire, Mgr Henryk Hauser, archevêque de Varsovie, il s'est attardé sur l'apport de Jean-Paul II, et en particulier sur l'exhortation apostolique Familiaris Consortio de 1981. Jean-Paul II aborde une expérience vaste et complexe concernant la famille, qui à travers les différents peuples et nations, reste toujours et partout la route de l'Église. On l'écoute.
Je crois que le bilan qui a été fait par Jean-Paul II est toujours d'actualité. D'une part, il a sans doute mis un grand accent sur la subjectivité du mariage. Ça veut dire que les conjoints deviennent de plus en plus sujets de leur vie. Mais d'autre part, il faut aussi dire que l'instabilité de la vie familiale est extrêmement inquiétante parce qu'elle produit des quantités des orphelins de fait. Même si les parents biologiques vivent, mais ces enfants, ces jeunes, ne sont plus encadrés par eux suite à une rupture de la vie familiale. Et donc nous sommes ici d'autant plus interpellés à trouver des lumières dans les ombres et à proposer le chemin de salut, je dirais, et donc revenir à ce qui est important dans la vie familiale comme une réalisation d'une vie pleine et d'une vie féconde et aussi une vie qui apporte le bonheur.
Dans votre intervention, vous avez nommé un pays africain comme le Rwanda. Qu'est-ce que l'Europe peut prendre de positif de l'Afrique sur le thème de la famille?
L'Europe peut apprendre que la nature humaine est partout la même et que nos réactions et notre conscience basique, je dirais, est partout la même finalement. Et les espoirs et les tristesses du monde sont partout comparables. Mais d'autre part, l'Europe peut apprendre de l'Afrique la culture familiale. La société africaine est basée sur la famille et, disons, constitue certaines amplifications de la famille dans la vie sociale, et ce qui n'est plus le cas en Europe. Donc, nous pouvons rencontrer en Afrique toujours ce modèle qui constitue une école de vie familiale, de la sociabilité des citoyens et qui constitue aussi la base de la vie de l'Église. C'est justement le synode africain convoqué par le pape Jean-Paul II a défini l'Église comme une famille des enfants de Dieu.
Mgr Hauser, interrogé par notre confrère Stefano Leschinski. Propose à présent une réflexion sur l'avenir du catholicisme dans la France d'aujourd'hui. Le père Mathieu Rouget, curé à l'église Saint-Ferdinand des Ternes à Paris et professeur au collège des Bernardins, propose son éclairage. Il vient de publier « L'église n'a pas dit son dernier mot », petit traité d'antidéfaitisme aux éditions Robert Laffont. Un ouvrage qui a pour objectif de montrer que le catholicisme est toujours bien présent dans le pays et qu'il suscite un intérêt général, un catholicisme qui, selon le père Rouget, a les moyens de se renouveler tout en se réformant.
Chaque époque a ses caractéristiques, chaque époque a ses défauts et ses qualités, mais nous sommes dans une période où l'évangile peut et doit être annoncé avec enthousiasme et confiance. Et je suis évidemment très sensible au ton du pontificat du pape François, qui remplit et d'enthousiasme missionnaire et d'exigence spirituelle pour nous mettre en mesure de répondre au défi de l'évangélisation aujourd'hui. Quand je parle d'antidéfaitisme catholique, je me réfère notamment à la critique que le pape François fait de la tentation défaitiste qui peut se glisser dans les cœurs chrétiens aujourd'hui, et il qualifie ce défaitisme de recroquevillement ou de lâcheté. Et il me semble aujourd'hui très important que les catholiques ne se laissent pas aller à ce recroquevillement et cette lâcheté du défaitisme mais qu'ils annoncent avec lucidité et enthousiasme l'évangile que le monde attend.
Est-ce que vous pensez que ça peut être aussi notamment dû au fait que les chrétiens se sentent moins compris?
Quand le pape nous invite à ne pas céder à la mondanité, c'est bien à cela qu'il fait référence en se reliant aussi à saint Jean. Il s'agit d'être dans le monde sans être du monde. Et donc cette situation paradoxale des chrétiens, elle est par elle-même source d'incompréhension. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a en France des crispations anticatholiques, qu'elles font souffrir un certain nombre de catholiques, mais l'important, c'est de voir dans l'agressivité elle-même une forme d'attente à l'égard de la foi, et finalement, le pire, ce serait l'indifférence. Qu'il y ait l'agressivité, c'est plutôt bon signe. C'est le signe que, de manière plus ou moins explicite, beaucoup saisissent que le catholicisme dit quelque chose et a quelque chose à dire.
Donc vous parlez des crispations, donc c'est dû donc notamment aux dernières décisions politiques. Quel est votre regard donc sur les relations aujourd'hui entre la politique et le catholicisme?
Il me semble qu'il y a un petit peu deux échelles pour regarder cela. Il me semble qu'à une échelle large et profonde, nous sommes plutôt dans une période où le rapport aux religieux se recompose dans la société française. Et alors que la société française s'était construite de manière théorique dans la négation du religieux, pour différentes raisons, en particulier la présence importante de musulmans en France aujourd'hui, eh bien, le rapport au religieux doit bouger. Et on ne peut plus faire comme si le rapport au religieux était marginal ou secondaire pour comprendre la société. Ça, c'est la tendance de fond. Et sur cette tendance de fond, nous assistons à une crispation qui, à mon avis, au plan de l'histoire, est relativement superficielle. Crispation antireligieuse et anticatholique, parce que en France, la position antireligieuse va être spontanément anticatholique. Et aussi, c'est une manière d'exprimer sa peur vis-à-vis de l'islam sans la nommer, et qui prend des tours très forts, très polémiques, y compris dans l'équipe gouvernementale actuelle. Mais ces tendances-là peuvent faire souffrir un certain nombre de nos concitoyens, me semble en fait superficielle par rapport à une tendance de fond qui est une recomposition plus positive du rapport de la société française au phénomène religieux.
Est-ce que cette tension persistante vous inquiète ?
Moi, je pense qu'il faut prendre les choses avec sérénité et fermeté en même temps. Il ne s'agit pas de répondre à la crispation par des crispations en retour, par une espèce de peur qu'il faudrait sortir de la paix profonde que le Christ met dans nos cœurs. En revanche, il ne s'agit pas non plus de consentir à la marginalisation officielle des religions. Et de ce point de vue-là, je pense que les catholiques français sont parfois trop perméables à la pensée commune, à la pensée véhiculée par les médias, etc. Notamment en surinterprétant la loi de 1905, qui est une loi de séparation institutionnelle entre les églises et l'État, mais pas de séparation entre l'église et la société. Et d'autre part, en intériorisant le fait que la paix civile, dans le contexte plus interreligieux aujourd'hui qu'il n'était il y a quelques décennies en France, passerait nécessairement par l'édulcoration de l'enracinement chrétien. Je pense que tout cela n'est pas juste, et donc il faut ne pas se laisser impressionner par cela et continuer la route avec beaucoup de sérénité, mais en même temps beaucoup de détermination dans l'affirmation paisible de la foi chrétienne.
Et qu'est-ce qui vous pousse donc à être optimiste pour la suite ?
Ce qui me rend plein d'espérance et de confiance, c'est que je vois qu'il y a aujourd'hui en France des hommes et des femmes jeunes qui n'étaient pas pratiquants, qui n'ont pas grandi dans une famille pratiquante et qui découvrent avec émerveillement la foi et s'y engagent avec ferveur et détermination. Je suis aussi frappé de voir que dans le monde culturel français, il y a des écrivains, des musiciens, des architectes qui se passionnent pour l'héritage chrétien et qui sont capables de faire vivre aussi cet héritage de manière renouvelée. Et donc, parfois, les catholiques sont tellement obnubilés par l'idée qu'ils sont devenus une minorité qu'ils ne voient pas ces signes d'espérance et qu'ils ne les accompagnent pas comme ils devraient. Il s'agit de ne pas être défaitiste, de repérer les signes d'espérance, de voir aussi à quelle conversion ces signes d'espérance appellent les chrétiens aujourd'hui, et puis à travailler pour que ces petites pousses puissent grandir et se multiplier.
Des propos recueillis par Audrey Radondi. C'est la fin de cette édition. Au nom de toutes les personnes qui ont contribué à sa réalisation, merci de l'avoir suivi.